Oui, merci Seigneur encore pour la liberté que nous avons de nous retrouver et de pouvoir partager ta parole, la liberté que nous avons de nous retrouver pour pouvoir t'adorer. Et je te prie Seigneur de faire couler ce que tu as mis sur mon cœur, Seigneur. Vraiment, viens nous parler encore ce matin grâce à ta parole, viens nous interpeller, viens nous donner des clés Seigneur pour maturer, pour grandir avec toi Seigneur Jésus. Amen. Alors la semaine dernière, Journal a dit, on a eu des baptêmes dans notre assemblée, 12 personnes qui sont fait baptiser. Et on leur a demandé pourquoi, ils ont rendu un petit témoignage. Et c'est vrai qu'on a eu des entretiens avec, un par un, on se voit pour savoir pourquoi ils se font baptiser. Alors on explique que c'est un acte d'obéissance, mais c'est aussi pourquoi, comment vous avez rencontré Dieu, etc. Et très souvent dans les démarches, on a, parce qu'il y a eu un souci de famille, parce qu'il y a eu une addiction, parce qu'il y a eu la recherche de la vérité, parce qu'il y a eu une recherche de spiritualité, parce qu'on a toujours baigné dedans. Il y avait des gens qui étaient nés dans des familles chrétiennes et puis ça leur paraissait juste, entre guillemets, normal. Et en fait, les différents témoignages, ça reflète globalement pourquoi chacun d'entre nous, on s'est à un moment donné approché de Dieu. Et parfois, ou souvent, Jésus, il est présenté, ou Dieu, il est présenté comme ça, il répond à nos besoins. Et ce qui est vrai. C'est-à-dire que Jésus, il vient dans notre détresse, il vient dans notre misère, il va répondre à un de mes besoins. C'est totalement vrai, et en même temps, c'est totalement insuffisant. C'est vrai que souvent, dans notre démarche avec Dieu, au début de notre vie, c'est peut-être parce qu'on cherchait quelque chose, c'est peut-être parce qu'on avait un besoin fondamental. Et je ne voudrais pas que les nouveaux baptisés, ils aient une image un peu tronquée de Dieu. D'accord. Et ce matin, alors que je réfléchissais à ce sujet-là, je réfléchissais pas à ce sujet-là. C'est que dans la nuit, j'ai été réveillé avec deux mots, j'ai vraiment senti qu'il y avait un appel pour répondre à ça, pour répondre à ces deux mots que je vais vous développer ce matin, pour bien comprendre des réalités spirituelles. Jésus il parlait très souvent de choses très simples pour nous enseigner sur des réalités spirituelles. En fait, je pense qu'il y a des gens. Et je me mets dedans, je pense que parfois, nous imaginons l'Église ou notre vie avec Dieu comme un autel. Parfois, je pense qu'on imagine, alors on ne l'a pas forcément formulé, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 3 semaines en arrière, un mois à peu près, je suis parti faire une formation à Clermont-Ferrand, et il y avait Fabien et Lydie, qui étaient là les 15 derniers jours, qui habitent vers là-bas. Donc ils m'ont dit, viens dormir à la maison. Je suis allé dormir chez eux les jours de la formation, mais le premier jour, parce que j'étais à quasiment 40 minutes de route de la formation et parce que j'arrivais tard le soir, j'ai pris une nuit d'hôtel. Pourquoi j'ai pris une nuit d'hôtel? Juste parce que ça répondait à mes besoins, parce que je ne voulais pas les embêter. En plus, la formation commençait le lendemain à 14h, donc je savais que si le lendemain matin j'étais avec Fabien et Lydie, on allait taper la discute. Alors que là, à l'hôtel, j'avais rien à faire, donc je pouvais faire ce que j'avais à faire. Et je pouvais travailler et faire ce que j'avais à faire la matinée. Du coup, je prends une chambre d'hôtel pour répondre à mes besoins. C'est bon jusque-là? Et en plus, l'hôtel s'adapte à ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire que je leur dis, normalement, on doit libérer la chambre à 11h. Je leur dis, écoutez, est-ce que c'est possible de garder la chambre jusqu'à midi, midi et demi? Parce que voilà, après, je pars directement. Ils s'adaptent à mes besoins. Ça veut dire que je dis à l'hôtel, alors je paye, hein, mais je dis à l'hôtel, est-ce que je peux garder la chambre? Pas de problème. Vous voulez le petit déjeuner? Pas de problème. Et parfois, on mène nos vies chrétiennes un peu comme ça. Parfois, on mène nos vies chrétiennes un peu comme ça. Parfois, on voit l'Église un peu comme ça. Et je voyais une vidéo, alors j'y vais très peu sur les réseaux sociaux, et je tombe sur une vidéo d'une jeune femme, alors je ne la connais pas, elle doit avoir 20-25 ans, et en fait, elle est allée à un culte, et elle donne son avis sur l'Église. Elle donne son avis sur l'Église comme si on était TripAdvisor, vous savez. 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 1 étoile, mais vraiment parce que je ne peux pas mettre 0. Vous voyez, TripAdvisor, je donne mon avis sur l'Église. Et dans ma tête, je me dis, mais c'est tellement choquant. C'est tellement choquant. Et je me dis, mais enfin, c'est entre nous. Hein. Je me dis, mais pour qui tu te prends? Mais j'ai envie de lui dire, mais ma grande, pour qui tu te prends? T'as 20 ans, tu sors d'un endroit, et je ne savais pas d'où, hein, il y avait le nom, mais peu importe. Mais je me dis, mais pour qui tu te prends? Et c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire qu'on nous habitue à ça. On nous habitue à baigner dans cette mentalité de « j'ai un besoin, c'est normal ». Et puis aujourd'hui, il y en a qui le font très bien. Vous commandez, sans les citer, un livre sur une plateforme, le lendemain, il est chez vous. C'est un truc de dingue. Et je ne voudrais pas que nous pensions, ou que certains pensent, que l'Église, c'est la même chose. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette image d'hôtel. Il est beau, en plus. Hein. Franchement, c'est pas là où je suis allé dormir, hein, je vous le dis tout de suite. J'étais en plein milieu des travaux, etc. Mais voilà, on a un bel hôtel. Et je ne voudrais pas qu'à un moment donné dans nos têtes, on pense que la vie chrétienne, elle est comme ça, ou que l'Église, elle est comme ça, répondre à mes besoins. De temps en temps, alors souvent, je fais des partages où parfois, je ne suis pas dur, j'aime énormément les gens, mais parfois, ça peut paraître très dur. Mais réellement, parfois, on a des entretiens où on rencontre des frères et des sœurs, on a presque l'impression qu'ils nous disent « Pasteur, attendez, j'ai mis les mots, vraiment, c'est pour toi que je suis venu. Réjouis-toi, je suis venu ce matin dans ton église. » Je pousse un peu le trait, mais parfois, j'ai l'impression que j'ai des frères ou des sœurs qui presque vont me dire « Réjouissez-vous », ou dire au pasteur, aux cinq, « Réjouissez-vous, on est venu ce matin. » Je lui dis « Mais t'es fou ou quoi ?» Mais réellement, c'est dans ce monde qu'on vit. On a parfois des gens qui pensent « Réjouissez-vous, je suis venu dans votre église. » Alors, un, c'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et deux, t'es un fou. Pardon, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Alors, dis plus pastoralement, tu as besoin de guérison, frère ou sœur bien-aimé. Mais tu peux pas dire ça. Tu as la grâce et l'honneur de pouvoir venir dans une église. Alors, il y a beaucoup d'églises comme ça, ce n'est pas que pour nous, évidemment, où les gens ils font du mieux possible pour chercher la pensée et la volonté de Dieu. Le reste, je ne vais pas dire que ça m'indiffère, et on va en parler. Le reste est aussi important. Mais c'est moi qui ai la chance de pouvoir venir dans une église avec des frères et sœurs pour pouvoir adorer, pour pouvoir louer, pour pouvoir croître. Ne crois pas que tu fais un pas, que tu es gentil parce que tu es venu ce matin. On est d'accord avec ça ? Et ce n'est pas dur ce que je dis. Hein. Je pèse mes mots, j'essaie d'être gentil. Mais réellement, c'est une grâce et une liberté que nous avons de pouvoir venir librement à l'église. Quoi. Dans une église où on a des gens qui essayent en tout cas d'aimer Dieu, enfin qui aiment Dieu, et qui essayent d'aimer du mieux possible son frère et sa sœur. C'est déjà pas mal. Et de témoigner autour d'eux. Amen. À l'hôtel, vous savez ce que c'est le public ? Le public de l'hôtel, ce sont des consommateurs. Je paye, j'ai une prestation. Je demande ce que je veux. L'hôtel, je l'ai marqué comme ça, c'est un lieu de confort spirituel. C'est un lieu de confort spirituel et c'est un peu comme l'église. Ça peut être comme l'église, on y est bien. Il y a des relations amicales, c'est un lieu chauffé. On a le café, on est assis, on a un accueil, on l'a dit tout à l'heure. On a une adoration ensemble, on a des bons instruments, on a des bons musiciens, on a du bon matériel, il y a une sécurité, on a un parking, on a une prédication exceptionnelle ce matin, etc. Et on voit l'Église comme ça. On voit l'Église comme ça. Et tout ça, attention, hein, c'est normal. C'est normal, on est en Occident, tu viens, si on peut t'offrir un café, si tu peux être assis, si tu peux avoir le chauffage. Merci Seigneur, et c'est normal. Je le répète, c'est normal. On est d'accord avec ça ? Mais, un gros mais, c'est pas le lot de tout le monde. C'est pas le lot de tout le monde dans l'histoire de l'Église, c'est pas le lot de tout le monde autour du monde. Et ce n'est d'ailleurs pas le lot de beaucoup de gens qui peuvent avoir la grâce de vivre la manière dont on le vit. Enfin, je ne sais pas si on dit la grâce, mais qui peuvent le vivre de la manière dont on le vit. D'accord ? Et je me dis, ça nous oblige, ça nous interpelle, ça nous rend encore plus sérieux et ça nous... Attention à ne pas rester dans la partie normale. D'accord ? Et le curseur, il n'est pas évident, et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'on voyage beaucoup. On pourrait tomber dans, entre guillemets, le luxueux. On pourrait tomber dans la distraction. C'est-à-dire que dans l'Église, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on... Alors, on a parlé un peu des finances, mais sur d'autres sujets, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça de manière encore mieux ? Et il y a un curseur à trouver, où on veut que les gens soient bien, on est installé, on est bien, mais évidemment, on ne va pas dans le luxueux, évidemment, parce que j'aurais honte par rapport aux frères et sœurs qui sont dans des églises persécutées, et je pense que ce n'est pas la pensée de Dieu. Donc, du coup, il y a un curseur à trouver. Alors ça, c'est les responsables de l'Église qui mettent le curseur, on en discute aussi. Et aussi la distraction, c'est qu'on n'est pas là pour faire un show, on n'est pas là pour faire un spectacle. Vous, nous ne sommes pas des consommateurs, on est là pour vivre quelque chose avec Dieu. Amen. Il y en a qui ont fait du droit, il est où Jérémy ? Il y en a qui ont fait du droit. En fac de droit, on vous explique la différence entre le principal et l'accessoire. C'est des règles juridiques. Vous achetez une maison, la principale, c'est j'achète une maison. L'accessoire, c'est les volets de la maison. D'accord ? J'achète une maison, le principal, c'est la maison, c'est les murs, c'est tout ça. Les volets, c'est l'accessoire. Et dans l'Évangile, dans la vie d'Église, c'est la même chose. Il y a le principal, il y a l'accessoire. Le café, c'est très bien, et j'aime beaucoup le café. C'est très important, mais le principal, c'est l'adoration qu'on rend à Dieu, c'est l'amour qu'on a pour Dieu, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Tout le reste, c'est important, mais c'est accessoire. Est-ce que ça, c'est bon ? Mais vous inquiétez pas, je vais quelque part. Et je pense que Satan, parfois, il s'amuse que nous apportions autant d'importance à l'accessoire. Satan, parfois, il nous distrait, il nous occupe avec l'accessoire, parce qu'on perd le principal. Si tu t'occupes des volets quand tu achètes une maison, tu es mal barré. Hein. Parce que si le toit il tombe, que les fondations ne sont pas bonnes, que la cuisine, il n'y a rien qui ferme, il n'y a rien qui ouvre, et qu'il n'y a pas d'eau chaude et qu'il n'y a pas d'eau froide, ben, tu auras des super volets, mais tu seras trompé d'objectif. Hein. On est d'accord ? Et donc, je pense que Satan, je le répète, parfois il s'amuse que nous apportions autant d'importance à l'accessoire. Que tu t'offenses pour l'accessoire. Satan, il s'amuse de ça, que parfois nous sommes offensés par l'accessoire. Et je vous promets que comme on voyage beaucoup, je vous assure que comme on voyage beaucoup, on le voit. On a des frères, des sœurs qui d'un coup prennent « Ah, ça, c'est important !» Mais attends, oui, c'est important, mais il y a beaucoup de sujets qui sont importants. Mais est-ce que c'est le principal ? Est-ce que c'est le cœur de l'évangile même ? Amen. Et donc, j'ai marqué les pasteurs, je me suis permis de parler au nom de nous cinq. Nous ne voulons pas que tu penses un instant que c'est ça l'Église. Réellement. Et pourtant, j'aime le café, je suis content d'être dans une salle chauffée, d'avoir de la bonne musique, etc. J'en suis le premier, on est tous reconnaissants de ça. Mais je ne veux vraiment pas que tu penses que c'est que ça l'Église. Et on bascule sur la deuxième. Si tu peux me mettre la deuxième slide. Donc, vous avez le titre du message et c'est tout le corps du message. Donc, il n'y a que deux mots. De l'autel avec un H, là où je fais dodo, l'image que je vous ai mise, la prédication, ce sera là-bas, l'autel. Donc, ce qui est bien, mais insuffisant. Et là, on a l'autel sans H, avec un A, AU, et là, on ne fait pas dodo. Ce n'est pas tout à fait la bonne image en plus, parce que ça, c'est une image d'autel de luxe, alors que souvent, l'autel, il y avait juste des pierres qui n'étaient pas taillées, juste qui étaient rassemblées. Un autel AU, c'est juste... C'est juste une table. C'est à la fois juste et à la fois c'est très important. On va dire que ça, c'est l'autel. Ce n'était pas comme ça, hein. C'était juste un tas de cailloux, d'accord ? Mais qui servait de table pour pouvoir poser des choses dessus. Et l'autel, dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, c'est à la fois s'approcher de Dieu, c'est à la fois le lieu de communion et c'est à la fois le lieu de sacrifice. Et aujourd'hui, on a l'impression que ce mot il est un peu désuet, autel. On le dit beaucoup moins. Alors, on le lit dans l'Ancien Testament de temps en temps et je pense qu'il y a une erreur qui peut être faite, c'est que l'autel, on a l'impression, comme Jésus, c'est le sacrifice ultime, ben du coup, l'autel, on est moins concerné. Vous voyez ? À l'autel, c'était des animaux, c'était des offrandes pour se réconcilier avec Dieu, pour demander pardon avec Dieu, pour avoir la communion avec Dieu. Comme Jésus, il a fait ça une fois pour toutes, on n'a plus besoin d'amener notre taureau. Alors, je vous promets, je voulais amener un bout de sanglier et le mettre là. Je vous promets que je voulais le faire. Elle m'a dit sanglier, c'est le cochon, c'est peut-être pas. Voilà. Mais j'ai failli le faire. Donc, du coup, ça, on ne fait plus aujourd'hui. On ne fait plus parce que Jésus, lui, l'a fait une fois pour toutes. C'est ce que nous enseigne l'Évangile. Donc, du coup, l'autel, on a l'impression qu'on est un peu moins concerné. Oui ? Pas forcément amen, mais on va y venir. Mais un peu moins concerné. Dieu nous attend toujours ici, pourtant. Et c'est ça que je veux partager ce matin, que les gens comprennent bien. Dieu nous attend ici. En fait, parfois, on croit qu'on imagine l'Église et notre vie avec Dieu là, alors que Dieu nous attend là. Et vous et moi, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime bien être là-bas. Moi, j'aime bien être là-bas. Il n'y a pas à cuisiner, il n'y a rien à faire. J'ai juste à dormir, j'ai juste à choisir le choix du matelas, j'ai une belle vue, j'ai rien à faire. Et Dieu nous attend là. Et parfois, dans nos milieux occidentaux, parce qu'en Orient ou dans les pays où l'Église est persécutée, ça, ils l'ont pas. Ça, ils l'ont pas. D'accord ? Et nous, le défi de notre vie dans nos milieux, c'est d'être là, tout en ayant le chauffage et la chaise qui va bien. Est-ce que c'est bon ? Si vous rappelez les deux images, vous avez le message. C'est pas pour se faire pardonner, c'est pas pour acquérir, c'est pas pour gagner quelque chose ici. C'est pour être sanctifié. Et c'est pour être une nouvelle personne. Et on va développer tout ça. Romains 12, verset 1, je vous exhorte, donc c'est là, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La pensée du corps, là, c'est notre être tout entier. Hein, ce n'est pas juste le corps physique, C'est tout mon être, tout entier. C'est comme Abraham, quand il a porté son fils pour être sacrifié, ben, il a pris ses jambes pour y aller, il a marché, il a construit l'autel, il a lié son fils. Vous voyez, c'est physique, c'est le corps, mais c'est aussi son intention qui était là, son intention d'obéir à Dieu. C'est aussi ma mentalité, c'est aussi mes pensées. C'est tout ça à la fois quand on dit d'offrir nos corps. C'est mon être tout entier que je choisis d'offrir comme un culte raisonnable. Et le mot raisonnable en grec, c'est le mot qui donnera logique. Parce que raisonnable, parfois, ça, on ne sait pas trop. Logique. Ça veut juste dire que là, le verset là, c'est juste logique. Ne croyons pas qu'on fait des folies. Encore une fois, ne croyons pas qu'on « Ah, je donne ma vie à Dieu ». Ouais, mais enfin, juste on obéit et juste c'est logique de faire ça. C'est logique et normal. Amen. Et là, qui est concerné par ça? Là-bas, je vous ai dit le public, là, le public, on s'adresse à des consommateurs. Là, le public, on ne s'adresse pas à des consommateurs. On s'adresse à des disciples de Jésus-Christ, ici. Ici, on s'adresse à des gens qui veulent répondre à l'appel. Et on n'est plus consommateurs, là. Là, on est consommé. Là, on est consumé. Hein? Là, on se met là-dessus et boum, brûlé. Plus rien. C'est ça à quoi Dieu nous appelle. Et le défi d'aujourd'hui, c'est vraiment que nous soyons là. Amen. Et souvent, on le voit, souvent, les gens, vous voyez, on a eu Audrey Mac, on aime l'onction, on se dit, ouais, cette sœur, elle a quelque chose. Cette sœur, elle a quelque chose. On aime l'onction chez les gens, on aime le poids. Vous savez, quand ils parlent, on sent qu'il y a un poids. Et on veut rester là. On veut rester là. Mais Audrey Mac et tous les autres, c'est qu'à un moment donné, ils ont été là. À un moment, ils ont été là. Et c'est pour ça que quand ils parlent, on sent qu'il y a la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un poids quand on parle. Et ce n'est pas réservé au ministère. Hein. C'est pour tout le monde. Je suis désolé si ça casse un peu l'ambiance et peut-être qu'à midi, le repas sera un peu plus lourd que d'habitude. Mais c'est ici que Dieu nous attend. Et surtout en Occident. Parce que dans les pays où l'Église est persécutée, je le répète, en fait, cette étape-là, elle n'y est pas. Elle n'existe pas, cette étape. Elle n'existe pas. Si tu te convertis, c'est là. Tout de suite, c'est là. Et je l'ai marqué quelque part, la semaine dernière, on a eu les baptêmes. Et les baptêmes, et c'est pour ça que je vise les gens qui ont été baptisés, je ne vous vise pas vous, parce qu'on est tous passés par, enfin, beaucoup sont passés par les eaux du baptême, et ça concerne tout le monde ce matin. Mais le baptême, on a eu ici de l'eau chaude, d'accord ? C'est filmé. Tu auras même une clé USB avec ton souvenir de ton témoignage et du baptême que tu as vécu. Amen. Et c'est super de l'avoir. Sauf que si on avait été dans une église persécutée, ou si on avait vécu il y a 4 siècles, pour se faire baptiser, ça voulait dire je signe mon arrêt de mort. Je serai condamné à mort. En même temps que je me fais baptiser, je sais que je peux mourir. Il y a 4 siècles, c'est ce qui se passait en France et en Europe. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits du monde, si je décide de me faire baptiser, je signe que je suis prêt à mourir. Et je ne parle pas du confort qu'il y a là. Est-ce qu'on se rend compte? Alors, ça diminue en rien les gens qui sont passés par les eaux du baptême avec l'eau chaude. Je ne vais pas te mettre des glaçons juste pour te faire souffrir. Ce n'est pas ça. Mais je veux juste qu'on prenne les choses vraiment au sérieux. Et je sentais ça cette semaine, et aussi avec le fait de voyager, de me dire, mais comment ça se fait qu'à un moment donné, on passe du temps à parler de ça? Il faut le faire, et merci Seigneur pour les gens qui le font. Et moi, en plus, je suis quelqu'un qui aime l'organisation, qui aime tout ça, donc j'aime le faire, j'aime ça. Mais encore une fois, le principal, il est là. Ça, c'est accessoire. Important, mais accessoire. Là, c'est le principal. Là, c'est le cœur de ce qu'on fait. Amen. Ouais, je le dis en blague, mais c'est comme les voitures. Depuis 20 ou 30 ans, j'hallucine. Parce que les gens, ils commencent par m'expliquer. Alors, plus maintenant, mais ils commencent par m'expliquer toutes les options. Enfin, si, maintenant, mais je pensais, par exemple, moi, quand je commençais à conduire, en gros, le truc où il fallait, c'était la clim. Mais maintenant, on a des voitures où on nous dit les options, alors qu'on a un moteur qui ne marche pas. Désolé pour les gars qui travaillent chez Stellantis, mais on a des moteurs qui ne marchent pas alors qu'on sait les faire. Et on a trafiqué des moteurs pour rajouter des produits qui nous font des voitures qui ne marchent pas. Par contre, on m'explique qu'il y a des options. Mais je m'en fous de ton option. Je n'ai rien à faire d'avoir la clim dans ma voiture si elle ne roule pas. Si elle ne démarre pas le matin, je m'en moque d'avoir la clim dedans. Et parfois, dans nos milieux, on est un peu comme ça. C'est bon ? Donc le moteur, il est là. D'ailleurs, l'essence, elle est là. Enfin, on va en parler après. Je continue. Ici, c'est dur d'expliquer le prix payé. D'expliquer qu'ici, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer ici. Et réellement, en toute transparence, je trouve que c'est dur à expliquer aux frères et aux sœurs. C'est dur parce que t'entends, donc le journal sort beaucoup. Alors, je suis désolé, je t'ai pris pour exemple, mais les gens ils pensent que c'est les kilomètres, le prix payé. Les gens ils pensent que c'est la fatigue, le prix payé. Les gens ils pensent que c'est hier, je me suis levé à 6 heures, je suis rentré, je ne sais pas à quelle heure tu es rentré. Une minuit, une heure du mat, elles étaient 10, 15. Donc on vous dit, ouais, et c'était super. Mais le prix payé, il n'est pas là. Même si ça, ça coûte, le prix payé, il n'est pas là. Le prix payé, il est dans tout ce qu'on ne voit pas. Le prix payé, il est ici. Quand il y a des gens qui m'agacent et je choisis de répondre par l'amour, le prix payé, il est quand il y a de l'injustice et je choisis de refléter Dieu plutôt que de me venger, etc. Et c'est difficile à expliquer parce que là, je peux vous amener avec moi. Je peux vous dire, viens voir l'hôtel et je te fais visiter la chambre. Là, je peux t'amener avec moi. Et c'est ce qu'on fait quand on félicite l'accueil. Et merci de le faire encore une fois. C'est que l'accueil, on peut encore l'améliorer et tous les sujets, on peut les améliorer. Et là, je peux te le montrer. Là, je trouve, mais c'est un avis personnel, je trouve que c'est plus difficile à t'expliquer. Mais ceux qui y sont passés, ou qui y sont maintenant, ou qui y passent, d'ailleurs là je pense qu'on est appelé à y être tous les jours, mais quand on est là, on le sait. On le sait. On continue ? Je pense que Dieu, parce que la question aussi que les gens peuvent se poser, c'est comment on passe de là à là ? Alors déjà, forcément, souvent on n'a pas envie, mais comment on y passe ? Et je pense que les petites occasions du quotidien sont des invitations de Dieu à forger mon caractère ici, à me laisser briser par Dieu, à me laisser maturer par Dieu, à me laisser consumer par Dieu. Je trouve qu'il y a beaucoup d'occasions dans notre quotidien, que ce soit ton travail, que ce soit dans ta vie de couple, que ce soit dans l'éducation de tes enfants, que ce soit dans la vie avec les frères et sœurs à l'église, que ce soit la vie avec les gens avec qui tu travailles, que ce soit les injustices que tu rencontres. Ici, il y a plein d'occasions. Il y a plein d'occasions. Et petit à petit, mais c'est dur. Et dans nos milieux évangéliques, on parle beaucoup plus souvent du « c'est super les choses qu'il y a à vivre avec Dieu » et réellement c'est super. Mais il y a toute une partie où c'est dur. Il y a toute une partie où là, c'est le lieu de souffrance aussi. Réellement, je le crois. Alors tous, on est là à se dire « oui, mais derrière, c'est mieux. Merci Seigneur, il y a une espérance, mais c'est dur. » C'est bon ? J'ai marqué deux exemples, et puis comme ils ne sont pas forcément là, ça tombe bien. Une fois, je suis à un match de foot. C'est un très bon indicateur social. Vous allez voir un match de foot avec des enfants. Les papas sont dingos, mais ça vaut le coup d'y aller quand même. Allez-y dans un village une fois, vous allez voir. Et j'ai un arbitre, c'est souvent des arbitres amateurs, c'est des gens du club qui font la touche. Et le gars est devant moi, là, comme de là à là, et vraiment, il triche. L'arbitre, il siffle. Il soulève son drapeau, il siffle, alors qu'il n'y avait pas lieu. Mais vraiment, c'était grossier. Et là, il y a le Pierre d'avant qui ressort. Pierre d'avant, ce n'était pas l'hôtel, c'était là-bas. Hein. D'accord ? Et là, et c'est en moi, là, je le sens. Je le sens que c'est très facile de basculer. Je le sens. Pardon. Et là, je me dis, ouais, mais il ne faut pas qu'il y ait un frère ou une sœur de l'église hein, autour du stade. Hein. Et surtout, tu vis devant Dieu. Donc, Pierre qui est passé par là, Il dit rien. Non. Et il y a un des gamins de l'équipe où il est tellement en rage en lui par rapport à ces injustices-là. Vous allez me dire, c'est qu'un match. Non, mais quand tu joues pour gagner. Hein. Tu ne joues pas pour te balader. Hein. Donc, ce n'est pas qu'un match. D'accord ? Et le gamin, il est tellement frustré et tout qu'il se barre à la fin du match. Il ne serre la main à personne et tout. Je discute. Je dis... Non, tu vas serrer la main de l'arbitre. Et ça fait quoi en toi ? C'est humiliant. Ça te brise. C'est pas pour te casser en deux. C'est pour briser ce côté de révolte, d'injustice et tout ça. Pour lui montrer qu'il y a quelque chose de plus grand. Que je vis pas dans le royaume là-bas, je vis dans le royaume ici. Et en moi, ça crée une... C'est bon ? Et c'est là qu'on nous attend, frères et sœurs. C'est là qu'on nous attend. Et notre église, elle est attendue là. Elle est attendue là, réellement. Là-bas, on va y arriver. Mais on nous attend là. Dieu nous attend là et je le crois profondément. Amen. Donc, profitez des petites occasions pour passer là. Je continue. Normalement, à l'Église, on est tous d'accord, enfin, les gens qui ont fait une démarche avec Dieu, nous avons donné notre vie à Dieu. Donc là, moi, l'autre fois, je réfléchis, je me dis, mais en tant que pasteur, ça doit être super facile à gérer. Les gens sont morts. Ils n'ont pas de volonté. Quand toi débordes. Physiquement, ils ne bougent plus. Ils ne doivent pas nous insulter, puisqu'ils sont tous morts. Donc je me dis, le métier de pasteur, c'est le métier le plus facile au monde. Puisqu'en face de moi, j'ai que des gens qui sont morts à eux-mêmes, qui ont donné leur vie à Jésus. Là, il n'y a plus de amen. Je pense que vous avez compris que c'était une blague. Mais normalement, c'est ça. Normalement, en face de nous, on est tous morts en nous-mêmes. Donc, il n'y a pas de problème d'ego, il n'y a pas de problème de je veux faire ça, il n'y a pas de problème que la musique est trop forte, il n'y a pas de problème que l'eau est trop chaude, il n'y a pas tout ça. Puisqu'en face de moi, j'ai que des gens qui sont morts à eux-mêmes. Oui ? Ouais. Un amen. Ici, je reprends ici, quand on mettait la viande, on y mettait le feu après. Et il reste quoi à la fin ? Il reste que les os. Tout a brûlé, il reste des os. Quand on dit des os, si on est chrétien depuis quelques mois, quelques années, on peut penser à Ézéchiel, si tu veux mettre la référence. Et j'ai choisi, j'ai réfléchi. Jusqu'à présent, chaque fois mes PowerPoint, je mettais le texte qui nous intéressait. Et je me suis dit, ça c'est dû, comment ils appelaient avant les plus âgés là, Reader Digest. C'est le Reader Digest, vous savez, c'est des gens qui ont lu des livres et puis on vous le résume en deux pages. Vous avez des livres de 200 pages, on vous les résume en deux pages. Reader Digest, je ne sais pas si ça existe encore. Et nous, pasteurs, on met les versets bibliques avec le détail. Comme ça, vous avez juste à lire. Et en fait, j'ai discuté avec un autre pasteur et il m'a dit, moi j'arrête de faire ça. Hein. Parce que ça accentue notre côté, je me mets là aussi, ça accentue notre côté consommateur. Si je mets juste la référence, bah vous pouvez le prendre en photo, vous irez le lire chez vous. Et ce n'est pas méchant ce que je dis. C'est qu'en fait, on n'est pas... en tant que pasteur, on peut avoir tendance à assister les gens parce qu'on veut que les gens comprennent les choses de l'Évangile. Mais il y a une partie où on ne peut pas... on n'est pas une vache, ça fait quoi les vaches ? Vous savez, ça rumine. On mange, ça redescend, ça remonte, c'est dégoûtant. Nous, on n'est pas là pour... on est là pour pointer vers Dieu, mais le reste, c'est à chacun et chacune de le faire. Donc maintenant, c'est un petit peu parce que c'était trop long, mais c'est aussi parce que j'ai fait le choix. Je mets la référence, les gens, ils iront le lire. Il n'y a plus d'amen non plus. Et en fait, c'est en le lisant que Dieu va te parler. C'est quand tu es tout seul. Et le problème, c'est qu'on a tendance à avoir nos gens qui, pas qu'ici, partout, on vient un dimanche, il y a les deux versets écrits, c'est bon, j'en ai pour ma semaine. Mais du coup, ça ne nous consume pas, ça ne crée pas là où Dieu il nous attend. D'accord ? Donc ça, c'est le passage avec les eaux desséchées. C'est Ézéchiel qui voit une vallée remplie d'ossements. Les eaux sont complètement secs. Et Dieu lui dit, est-ce que tu penses que ça peut revivre ? Et ainsi parle le Seigneur, verset 5, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Les eaux s'approchèrent les uns des autres, et les choses reprennent vie. Et en fait, nous, si on a été consumés, ça n'a pas du tout. C'est dans les discours de secte où ils font ça. Dans les discours de secte, ils font exprès de briser ce à quoi vous êtes appelés, ils font exprès de briser ce que vous aimez. L'Évangile, il ne fait pas ça. L'Évangile, il te dit juste d'être réellement brisé et humble devant lui, qu'il reste juste les os, pour que Dieu nous ressouffle dedans et nous redonne la vie. Donc, en fait, les choses pour lesquelles on croit renoncer, en fait, on n'y renonce pas pour abandonner. Dieu, ce n'est pas un sadique. Dieu, quand il te dit, mets cette passion que tu as en toi, c'est Dieu qui me l'a donné, cette passion pour telle chose. Et pourtant, Dieu, il m'a demandé de la crucifier. Pourtant, Dieu, il m'a demandé de la déposer à l'autel, ma passion. Oui, et après, vous savez quoi ? Alors qu'il n'y avait que quelques os, ben Dieu il a ressoufflé dedans. Il a donné les nerfs, il a donné la chair, et il a soufflé dessus. Et c'est comme si la chose maintenant est sanctifiée. Amen. Je reviens à l'autel. Je suis quand même gentil, je vous ai quand même mis des versets en entier. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Faites connaître vos besoins. Donc, comprenez bien ce que j'essaye de partager, c'est que la partie ici, Dieu répond à nos besoins. Il nous dit de lui dire nos besoins. Donc il le fait, on est bien d'accord. Ne hein. me dites pas, on est d'accord. Il le fait, il répond à nos besoins et Dieu aime ça. Et aujourd'hui, dans nos milieux, je trouve que c'est un temps de faveur, que c'est un temps favorable. Dans nos milieux évangéliques, globalement, on voit beaucoup de choses, on voit des exaucements, on voit des gens nouveaux, on voit qu'il y a des choses qui s'ouvrent, on parle beaucoup plus des milieux évangéliques qu'il y a 30 ou 40 ans. les choses de l'esprit, beaucoup de gens s'y ouvrent ou s'y sont ouverts. On voit tout ça, on a l'impression qu'il y a un temps de faveur, il y a un temps favorable. C'est comme si, entre guillemets, parce que je sais qu'on a vécu des grandes choses avant, mais c'est comme si Dieu est encore plus proche. Réellement, il se passe quelque chose. Et je pensais à des frères et des sœurs de l'Église qui aujourd'hui sont auprès du Seigneur, qui ont donné leur vie pour voir ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on commence à voir aujourd'hui. Et réellement, je pense qu'il y en a, vous les connaissez, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui on puisse vivre ce qu'on vit. Et alors dans l'histoire de l'Église évidemment, mais aussi dans l'histoire de notre Église locale. Et ça nous oblige encore plus. Et je pense que ça nous... Moi, ça m'invite, enfin, je le vis comme ça et je sens que c'est un appel de Dieu, de vivre ici, d'aller sur cet autel. Et ce n'est pas me flageller, hein, ce n'est pas ça. C'est juste de laisser ma vie à Dieu. Et il y a ce passage aussi, cette parabole dans Matthieu, d'ouvrier de la dernière heure. Je vous redonne juste le contexte. Je crois que je te l'ai mis, les références. Je pense que beaucoup la connaissent. C'est-à-dire qu'il y a un patron qui prend quelqu'un pour la journée et lui dit « Je te donne un denier pour la journée. » Et puis, il emploie quelqu'un d'autre 3 heures plus tard. Je te donne un denier pour la journée. Puis, 6 heures plus tard, il emploie encore quelqu'un et il lui dit, je te donne un denier pour la journée. Et il emploie quelqu'un à la fin de la journée et il lui dit, je te donne un denier pour la journée. Mais c'est horrible. Enfin, ça choque que moi ou... Parce que moi, j'ai l'impression d'être celui qui bosse depuis 8 heures du matin ou 7 heures du matin. Ouais, mais Dieu, il me dit, ouais, mais moi, je t'avais dit que je te donnais un denier, tu as été d'accord. Et là, on se rend compte dans cette histoire que celui qui arrive juste à la fin... Le gars tranquille, il a eu sa journée, il était peut-être à la plage, il vient le soir 17, 18 heures, il travaille 1 heure, il est payé autant que moi. Complètement injuste. Mais il n'y a que moi que ça choque, vous. Non, mais, si j'ai le choix, je préfère venir travailler à 18 heures. Et à 19 heures, je suis chez moi et j'ai fini. Donc cette histoire, elle est choquante. Et en même temps, c'est par rapport à ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous, ça fait quand même longtemps qu'on enseigne que Dieu, il accélère les temps. Dieu, il accélère les temps et on est en train de voir des gens qui se convertissent et qui très vite passent de là à là. C'est un encouragement, on doit se réjouir pour ça. Par contre, si je suis quelqu'un qui reste dans mon hôtel parce que je suis bien, eh bien, il y a des gens qui vont arriver après. Moi, c'est, mettons que j'ai 25-30 ans de conversion, ben, j'ai des gens qui vont arriver il y a 6 mois ou il y a 3 mois, ils vont se convertir de manière radicale. Et comme Dieu il accélère les temps, ces gens-là ils vont aller tout de suite là-bas. Et moi, je reste dans mon hôtel parce que j'y suis bien, il y a le confort spirituel, j'y suis bien, et je me dis, pourquoi lui, il arrive là-bas? Pourquoi lui, il est capable de vivre tout ça avec Dieu? Alors, on ne dit pas, il va sur le bûcher, mais on se dit, lui, on a l'impression que les portes sont ouvertes, on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses dans sa vie. Mais c'est juste parce que Dieu, il accélère les temps, c'est juste parce que la personne qui vient d'arriver, si tout de suite elle va là, il se passe des choses. Et on doit se réjouir de ça. Par contre, si je fais partie de la personne qui est restée dans l'hôtel, j'aurais peut-être changé de chambre dans le même hôtel, hein. Mais je ne serais jamais allé là. Il y a autre chose, c'est qu'à l'hôtel, tu manges ce qu'on te donne. Vous êtes déjà allé au resto avec votre côte de bœuf? Non, tu n'arrives pas au restaurant avec ta nourriture. Et à l'hôtel, c'est pareil. On te donne à manger ce qu'eux ont préparé. Quand on est là, celui qui a sacrifié la viande, celui qui a apporté son bout de viande et qui l'a sacrifié, c'est lui qui choisit à qui il donne. Il y a des passages comme ça dans l'Ancien Testament. C'est lui qui choisissait en disant, viens manger, viens, je te donne un bout. D'accord? C'est une différence entre les deux. Là-bas, je mange ce qu'on me donne. Ici, c'est moi qui amène à manger. Et après, je le partage. Amen. Ici, c'est le lieu secret, c'est la chambre. Ici, c'est centré sur lui. C'est centré sur Jésus, ici. Comme les ouvriers de ce que je viens de te dire. J'ai encore une question. Moi, je suis arrivé il y a 4-5 ans dans mon nouveau travail. Et mon patron, tout de suite, j'ai bien aimé, il m'a dit « Pierre, prenez exemple sur les meilleurs de l'entreprise. Ceux qui ne font pas bien le job, vous n'en occupez pas. On est gentil avec eux, c'est mes collègues. » Mais il m'a dit « Prenez exemple sur les meilleurs de l'entreprise. » Oui ? Il n'y a rien de choquant. Jusque-là, il n'y a rien de choquant. Ici, si on prend modèle sur les meilleurs, alors c'est pas l'entreprise, si on prend le modèle sur les meilleurs, les 12 disciples, fin de vie pas évidente, je vous laisse relire comment ils ont fini, hein. Et tout ça sous la grâce de Jésus. Hein. Vous voyez les 12 comment ils ont fini. Hein. Vous lisez les histoires, Heidi Baker, à un moment elle raconte qu'elle a envoyé des missionnaires qu'elle avait formés dans des endroits où elle savait qu'ils allaient être tués. Il faut le gérer dans la tête. Hein. Vous voyez? Donc ici, quand on prend modèle sur les meilleurs... C'est pas forcément ce qu'on croit. Hein. Oui, donc c'est vraiment un choix. C'est vraiment un choix de vie. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on doit grandir avec Dieu, on va dire comme ça. Éclosion. On marque que c'est offert. On a l'impression qu'on fait un pas de foi énorme. Mais rentrez chez vous et lisez Georges Muller. Éclosion, dire que c'est offert, que les gens donnent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai l'impression de... Parce que j'aime les sujets financiers, ça m'excite. Mais je me dis, on dit que c'est offert, les gens, ils donnent ce qu'ils veulent. On en parlera peut-être dimanche prochain. Et on a l'impression qu'on fait un pas... Et on fait un pas de foi. Mais quand vous allez lire Georges Muller, il ne savait pas ce qu'il allait manger le matin. Il priait Dieu, boum, la porte, elle s'ouvre, et il y a des gens qui amènent à manger. On est dans un autre monde. Vous radez, je ne sais pas si vous radez un petit peu... Je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas le faire, mais je ne sais pas si vous radez la boxe. La boxe, il y a des catégories. Ben, tu vois, Georges Muller, on est dans les poids lourds. D'accord ? Nous, avec Éclosion, on n'est pas encore dans les poids lourds sur le volet financier. Ça veut pas... On en est où on en est, et on grandit. Mais je veux qu'on ait cette... Je crois que je l'ai mis juste après. Ouais, tu peux mettre la... C'est là-bas, je crois. Je ne sais plus lequel c'est. Ne te trompe pas. Hein. Vous connaissez cette phrase ? Vous pouvez répondre. Hein. C'est vrai, vous ne connaissez pas ça ? Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Ah, ce n'est pas une phrase biblique. C'est peut-être parce que vous lisez que la Bible et vous n'écoutez rien d'autre. Ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas du tout dans la Bible. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Pourquoi je vous dis ça ? Là, il n'y a rien de biblique. Il n'y a rien de biblique. Et moi, je me suis marqué, et réellement, je le fais devant Dieu. Je ne me regarde pas et je ne me compare pas. Réellement, devant Dieu, j'essaye tout le temps d'avoir la pensée de Dieu. Ce que font les autres, je m'en inspire. Les choses bonnes, je m'en inspire. Mais je ne suis pas là tous les jours à regarder dans un miroir, pauvre Pierre, et voilà, je me désole. Puis après, je regarde les gens autour de moi, je me dis, ah, finalement, ça va. C'est une pensée humaine. On n'est pas là-dedans. D'accord ? Et au contraire de ça, si tu peux me mettre le verset, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc quand je suis là, et je vous ai laissé la phrase au-dessus, je ne suis pas en train de me regarder et de dire « pauvre de moi », je ne suis pas en train de me comparer « finalement, ça ne va pas trop mal ». Non, quand je suis là, je contemple le Seigneur Jésus. Et là, Jésus, avec beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, mais en même temps beaucoup de fermeté, il me dit, Pierre, il y a encore ça qui ne va pas. Il y a encore ça que tu n'as pas consumé. Il y a encore ça que tu n'as pas encore consumé. Et Dieu, il m'amène plus loin. Et c'est excitant. Et c'est excitant. C'est comme si là, j'avais... il reste quand même de la graisse, vous voyez. Il n'y a pas encore que l'os, tu vois. Vous voyez. Et Dieu, là, il nous... C'est en le contemplant, parce que c'est en le connaissant, lui, que je me compare pas, mais que je m'inspire de lui et que ça touche ma vie et que je peux être reconstitué avec les nerfs de Dieu, la peau de Dieu, la chair de Dieu et l'esprit de Dieu. C'est grâce à ça que je vais être reconstitué. C'est bon ? Ici, c'est le lieu où il se passe quelque chose de spirituel. Ici, c'est le lieu où il se passe quelque chose de spirituel. Je vous ai mis Élie. Tu veux mettre aussi. Élie, dans 1 Roi 18, versets 25 à 41. Élie, c'est le passage avec les prophètes de Baal. Il y a un côté où qu'est-ce qu'il est provocateur. Ah, moi, ça m'excite. Il y a un côté où je me dis, ouais, il échauffe quand même. Donc, en fait, vous avez Élie, il y a d'autres prophètes en face de Baal. Et puis, il leur dit, allez-y, allumez le. Vous mettez tout ce que vous voulez là. Et vous allumez pas le feu. Et on attend que votre Dieu, Baal, allume le feu. C'est ça l'histoire. Et il marque à midi, Élie se moque à deux. Ce n'est pas la peine de préciser qu'il se moque à deux, parce que quand tu lis la suite, tu comprends. Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé. Ou bien il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Donc là, on a Élie qui dit ça aux autres prophètes, parce qu'ils n'ont pas vu l'exaucement. Donc moqueur, provocateur, hein, ça n'empêche pas de l'être un petit peu de temps en temps. Mais on a quand même cette situation où il y a ça. Et lui, Élie, donc ça ne marche pas, l'histoire de Baal ne marche pas. Et il y a marqué qu'Élie rétablit l'autel de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il a ramassé des cailloux, pour mettre des cailloux, il a mis le bois. Et voilà, je vais le lire pardon, en entier, verset 30. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ça veut dire qu'il refait la table, c'est comme s'il reconstruit la table avec des cailloux, il met le bois pour remettre en place l'autel. Et c'est ce que nous faisons. En tout cas, c'est ce à quoi nous sommes appelés. En plus, pour continuer à provoquer un peu, il fait un fossé autour de l'autel. C'est-à-dire qu'autour de là où il va y avoir le sacrifice, il fait un petit trou autour, enfin un trou, pour mettre de l'eau. Et il leur dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. C'est-à-dire que vous avez les pierres, un peu de bois pour faire le feu, la viande dessus, et là, il dit, versez de l'eau. Il faut être sûr de soi. Hein. Vous et moi, et ce n'est pas dit méchamment, quand on veut allumer un feu, un barbecue avec du bois, alors déjà, on est passé au gaz, mais si on veut l'allumer au bois, on va mettre du petit bois, on va mettre du bois moyen, on va mettre la petite cagette qui va bien, on va même mettre de l'allume-feu. Hein. Et là, on s'attend à ce que... Et on a le briquet. Hein, et on a le briquet, et on allume. Et on pense que c'est Dieu qui est intervenu. Là, il n'est pas là, Élie. Hein. Il dit, mettez de l'eau de partout, et il dit trois fois, vous lirez le passage, trois fois, rajoutez de l'eau une deuxième fois, au cas où, rajoutez de l'eau une troisième fois. Pourquoi ? Parce qu'il connaît son Dieu. Il connaît son Dieu, il sait ce qui va se passer. Il sait que ce n'est pas les circonstances qui vont faire que. Il sait ce qui va se passer. Verset 38, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. C'est la manière de faire de Dieu. Parce qu'on peut... Bon lecteur, on aurait pu se dire, tu pouvais prendre juste l'holocauste, hein. Tu n'étais pas obligé de tout faire. Ben, Dieu, c'est sa manière de faire. C'est quand on est là, qu'on lui donne notre vie, qu'on se laisse consumer par lui, ben, il nous change, nous et tout notre environnement. Amen. C'est la manière de faire de Dieu. Donc l'appel de ce matin, il est très simple, c'est « Viens mourir comme Jésus ». Souvent, on chante aussi, enfin parfois on chante « Crucifié », et parfois on n'a pas l'image, alors ce n'est pas forcément d'avoir l'image, mais vous avez une croix ici, quand on dit que Jésus il a été crucifié, c'est qu'il était tout nu sur la croix. Rien que cette partie-là, vous voyez l'humiliation qui va avec, et c'était là devant tout le monde. C'est ça notre Jésus, d'accord ? Donc quand il me demande à moi de changer mon caractère de cochon, quand il me demande à moi juste de toucher encore quelque chose, c'est une grâce qu'on a, parce que tant qu'on est sur cette terre, c'est des choses qu'on peut faire. Au ciel, je serai parfait. Et là, j'ai l'impression que, pas tous les jours, mais quasiment tous les jours, il me dit, mais là, il y a encore ça qui ne va pas chez toi, Pierre. Il y a encore ça. Puis tu veux voir des choses, tu veux que le feu y tombe, et tu n'es pas capable de faire ça. Ce n'est pas du tout de la culpabilité. C'est un appel pour le faire. Amen. Et encore une fois, notre quotidien, c'est le meilleur endroit pour le voir. Parce que parfois, ma femme me prend la tête. C'est rare. Non, mais c'est rigolo. Les gens, on explique quand on va à l'extérieur, c'est tellement drôle. Quand on va dans d'autres églises, on explique qu'on est cinq. Voilà. Mais cinq, mais il y en a quand même un qui décide. C'est toujours la deuxième question. C'est tellement drôle. Un jour, on écrira un livre parce que c'est toujours les mêmes réflexions. J'ouvre une parenthèse et je la referme. Quand j'ai deux sœurs qui se rencontrent, on a l'impression que la première question, c'est combien vous avez d'enfants. Quand j'ai deux hommes qui se rencontrent, c'est tu fais quoi comme métier. Quand j'ai deux pasteurs qui se rencontrent, c'est combien vous êtes dans votre église. Mais c'est tellement drôle. Je dis, mais combien on est. Enfin, bon, je ferme la parenthèse. Restons concentrés. Et je ne sais plus où j'en étais. Oui, et du coup, quand on leur dit qu'on est cinq dirigés, etc., et en plus, souvent, les décisions ne sont pas prises qu'à cinq, c'est-à-dire que très souvent, on associe beaucoup de frères et sœurs de l'Église. Voilà, quand il y a des choses importantes, c'est jamais cinq qui décident. Mais toujours, la question des gens, c'est, et si vous n'êtes pas d'accord? Et moi, je rigole. Je dis, mais tu crois qu'on est souvent d'accord? C'est tellement drôle. En plus, il y a un peu... Hein? Oh. Et tu te dis, mais en fait, la question... Et je l'ai encore eu ce matin, alors je ne veux pas l'afficher. Elle est où? J'ai encore eu ce matin. Les gens, ils me demandent, est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? 9 fois sur 10, je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que je cherche la pensée de Dieu. Et en tant qu'Église, on cherche la pensée de Dieu. Je ne vais pas dire que ça m'indiffère ce qu'on fait. Ce qui m'importe, c'est de faire la pensée de Dieu. On me dit, est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on fait ça? Mais j'en sais rien. Je suis pas, on a l'impression que je suis comme... vous savez, nous, on a un abonnement juridique où on peut poser des questions, ils nous répondent. Et moi, je ne suis pas un abonnement juridique. Hein. On me pose des questions comme si je pouvais répondre à tout. Et le dimanche matin, d'ailleurs, j'ai parfois 30 questions sur des petits détails, sur des petites choses. Mais je n'en sais rien sur beaucoup. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on veut chercher la pensée de Dieu. Et je sais que nous sommes nombreux. Enfin, tous les pasteurs, c'est sûr. Et même dans l'Assemblée, il y a beaucoup de frères et sœurs où c'est ce qu'on veut, juste chercher la pensée de Dieu. Et si c'est inconfortable, mais qu'est-ce que je vais pas faire un truc parce que je vais rester à l'autel. Je vais faire un truc parce que c'est la pensée de Dieu et qu'on va aller sur l'autel. Sur l'autel à titre personnel, sur l'autel en tant qu'Église. Amen. Est-ce que tout le monde comprend? Quand j'avais ici le bel autel, ben vous allez à l'autel, il n'y a jamais un autel avec un... Ouais, c'est compliqué à expliquer, c'est le même mot. Quand on va à l'autel pour dormir, il n'y a pas d'autel pour crucifier. Ça, la table qui est là, elle ne va jamais là-bas. Donc tu ne peux pas rester là et espérer avoir un petit bout de table et mettre un petit bout sur l'autel. Tu ne peux pas. Je finis avec ça. Ce n'est pas une parole de découragement, c'est une parole de foi pour nous dire « Allons ici ». Amen. Et l'autre chose, c'est qu'ici, et c'est à la fois, sincèrement, je trouve ça, c'est un côté où je trouve ça dur ou terrible, c'est qu'ici, je ne peux pas y aller à ta place. Un homme ne peut pas y aller pour sa femme, une femme ne peut pas y aller pour son homme. Tu ne peux pas y aller pour tes enfants. Tu ne peux pas y aller pour les frères et sœurs de l'Église. Tu ne peux pas y aller pour les gens de ton groupe de maison. Ici, tu ne peux pas y aller à la place de quelqu'un d'autre. Et j'en suis désolé, je trouve ça dur, parce que ici, je, pour l'avoir vécu, ou en tout cas en partie vécu, et pour le vivre, il y a un côté où c'est dur. Et je voudrais pouvoir le prendre pour beaucoup d'autres personnes, mais je ne peux pas. Je peux juste dire que cet endroit, il y est, que cet endroit, il fait mal, mais que cet endroit, il est glorieux. Amen.